Comte de Belfort. Tout ce sujet-là m'était complètement inconnu pour ma part, principalement sur tout ce thème que je ne maîtrise pas du tout, que j'aborde vraiment en tant qu'amateur informellement. Il y a un sujet psychologique qui peut toucher énormément d'enfants, parce qu'à l'heure actuelle de la société de consommation, les gens, par caprice, ils décident de décider, tiens, on va choisir sur catalogue. Vous voyez, c'est un peu frustrant, parce que ça peut être aussi des handicaps invisibles pour l'enfant et aussi pour les parents, avec les mesures d'anonymat qu'on peut parler. Donc, merci beaucoup pour ces informations-là. Et également, si vous faites du cas par cas, vraiment, continuez dans ce sens. Moi, je vous donne un encouragement sans juger ni les uns ni les autres, mais justement à bien les informer, parce qu'une vie, c'est une vie. C'est un engagement derrière, mais aussi, si l'enfant est considéré comme un objet, après, ça va se ressentir dans sa vie jusqu'à la fin, quoi. Et il y aura des gros problèmes au niveau psychiatrie, psychologique, et même avec des soins accompagnatifs, c'est des stigmates qu'on pourra très peu soigner.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Merci pour votre intervention.
Et continuez, parce que voilà.
Pour vous dire, il y a même, disons, on est allé plus loin dans l'éthiquement discutable, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des femmes qui payent pour avoir du sperme de prix Nobel pour pouvoir, parce qu'elles espèrent avoir là des enfants avec des QI nettement supérieurs à la normale. Ça ne se fait pas, ou sauf exception, ça ne se fait pas. Mais pour vous dire le monde dans lequel on vit.
Mais les progrès de la science sont encourageants. On va dire le créateur nous apporte en
avancée.
Oui.
Par contre, tout ce qui est sujet tabou, on peut le retrouver jusque dans les sphères tout en bas. Vous voyez, j'ai l'impression de voir que sur catalogue, je veux par exemple un animal ou bien par exemple un enfant juste par caprice. Voilà. Et là, ça devient aberrant parce qu'on touche à la dignité. Il y a énormément de sujets d'éthique. Et ça, je vous encourage vraiment, je vous dis merci pour ces infos. Il y a un gros manque d'informations et aussi de quelle façon on veut des enfants. Par caprice ou bien juste pour leur donner la meilleure des éducations possibles. Voilà. Moi, je pars du principe que je suis célibataire. J'ai pas choisi d'avoir d'enfants pour le moment parce que je ne suis pas en capacité de m'investir dans cela. C'est un sacré engagement. Aussi, les femmes, elles ont aussi leurs raisons, mais au lieu de faire n'importe quoi, de décider, faire la part des choses et qu'elles s'informent avant tout. Parce qu'en France, il y a peut-être des interdictions, mais au-delà de l'interdiction, ça démontre aussi qu'en Europe, il peut y avoir des énormes dégâts au niveau des personnalités, au niveau des gens. Et même à la MDPH, ça peut être aussi des sujets cuisants pour l'avenir. Parce que même si la science avance dans un certain domaine, donner la vie, ok, mais après, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des problèmes ancestraux, des problèmes généalogiques, et si l'enfant se présente à la porte, il a le droit aussi, il a son droit de demander d'où je viens. Et quand si on lui dit tu viens simplement d'une éprouvette, c'est une grosse baffe en claque. Et il y a tout ça à remettre en ordre dans sa petite tête. Et merci pour ce que vous faites vraiment et un encouragement à vos groupes de travail de réflexion. Merci beaucoup.
D'autres questions ?
Est-ce qu'on a une idée, du moins en France, pour savoir si les enfants qui sont nés par FIVET, vous parliez de 200 000, le savent. Enfin, pendant très longtemps, l'adoption a été un phénomène caché. L'intéressé ne le savait pas. Enfin, il finissait sans doute par l'apprendre par la bande. Mais qu'est-ce qu'il en est pour la civette? Comment
Alors,
qu'est-ce qu'on peut savoir?
Chaque couple, bien sûr, est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des études qui ont été faites dessus. Il y a de plus en plus de couples qui disent que, au plus tard, la majorité, c'est de leur devoir de le dire aux enfants. Mais ce n'est pas une majorité pour l'instant. C'est une minorité grandissante. C'est ce qui ressort d'études qui ont été faites sur cette problématique-là. Contrairement de nouveau aux pays anglo-saxons où il y a 20 à 25% des couples qui se refusent à le dire à leurs enfants. Moi, je ne dis pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça dépend tellement des situations individuelles, des couples. De toute façon, un médecin ne le fera jamais. Il est lié au secret médical. Ça fait partie du secret médical. Il ne dira jamais à un adolescent, de toute façon, non plus, parce qu'il sait trop ce que ça peut engendrer comme trouble de la personnalité après. Donc ça se passe au sein de la famille ou ça ne se passera pas.
Un enfant qui est né comme ça, ça montre un désir des parents d'avoir un enfant déjà. C'est pas un enfant qui vient comme ça par hasard. C'est une valeur positive dans le couple.
Bien sûr. Bon,
moi j'ai des 3 neveux qui sont nés comme ça. Ils se portent très bien, ils l'ont toujours su. Et ils sont...
Ah oui, oui, oui. Bah...
Et c'est même ça ne me dérange pas de le savoir. Hein.
Oui, oui. Mais c'est extrêmement variable d'un couple à l'autre. Hein. Madame?
Vous avez à plusieurs reprises bien dit que c'était la position, que vous présentiez la position donc telle qu'elle est au printemps 2018.
Oui.
Est-ce que vous sous-entendez qu'elle puisse évoluer? Alors je pense notamment à la position 1, réticence par rapport à l'AMP, femme homosexuelle, enfin couple homosexuel, femme célibataire, et la position 2, opposition nette à la GPA. En disant bien que c'est la position du printemps 2018, est-ce que sous la pression sociale, parce qu'on sent cela monter, je trouve, quand même, hein, à travers les médias, et bon, l'exemple de Fogiel est très net, et on n'imagine pas toujours quelle influence et quelle audience ce genre de personnalités peuvent avoir. Alors, voilà, donc est-ce que vous pensez que la position telle que vous l'avez définie, les deux positions, peuvent évoluer? Et si
alors,
oui, dans quel sens?
Alors, d'abord, je ne représente pas moi le protestantisme, moi tout seul. Je représente la position d'un groupe de personnes qui a réfléchi à un moment donné. Par contre, comme certains d'entre nous sont germanophones et d'autres sont anglophones, nous savons que nos églises sœurs dans d'autres pays ont réfléchi comme nous à ces problématiques et ont réfléchi plus loin que nous. Je vais vous donner un autre exemple pour vous expliquer pourquoi nous avons tenu à bien mettre ça en évidence. Vous êtes très proche de la Suisse ici. Vous savez qu'en fin de vie en Suisse, il y a possibilité de faire appel à ce qu'on appelle le suicide assisté. Ça, vous le savez. Vous savez aussi que en Suisse, on peut faire partie d'Exit, qui est la fameuse association qui s'occupe de vous si vous voulez mettre fin à votre vie, etc. Ce qu'on sait en général moins, c'est qu'il y a 2% de la population suisse maintenant qui font partie d'Exit. C'est absolument énorme, parce qu'il y a 8 millions de Suisses, donc 2%, ça représente presque 160 000 personnes qui sont donc prêtes à dire, eh bien moi je mettrai fin à ma vie. Mais c'est pas encore là que je veux venir à la suite. Les églises, alors la catholique de toute façon elle est résolument contre, la protestante est contre aussi. Simplement, la protestante s'est dit, nous allons avoir des paroissiens ou des fidèles qui vont décider qu'ils veulent mettre fin à leur vie. Et il y aura une demande d'accompagnement. Qu'est-ce que, en tant qu'Église, nous allons dire? C'est là que je reviens à la question que vous avez posée. Si les femmes seules demandent un accompagnement avant de se faire inséminer, et c'est déjà arrivé en Alsace. Et les couples de femmes, nous avons un couple de femmes dont l'une est pasteur, qui vivent donc en couple, qui s'est fait inséminer à deux reprises en Belgique. Ça aussi, c'est pas très fréquent, mais c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est ça ce qui nous a fait dire. Nous ne pouvons pas, parce que nos directions d'église n'auraient pas été d'accord, que nous disions, eh bien maintenant nous ouvrons, tout est permis, tout est possible. Non, mais nous pouvons laisser sous-entendre que je pense que la prochaine étape sera de dire tout pasteur aura le droit de refuser d'accompagner quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie. Tout pasteur aura le droit de dire, moi, donc l'insémination d'une femme seule ou d'un couple de femmes, c'est pas mon truc. Mais ce que nous voudrions obtenir, c'est que dans la déontologie pastorale, chaque pasteur doit, à ce moment-là, référer le couple, la femme seule, à quelqu'un qui accompagnera. Et ce qui est très difficile, parce que bon, je suis impliqué dans la formation des pasteurs aussi, ce qui est très difficile, c'est d'expliquer aux pasteurs jeunes et moins jeunes que accompagner quelqu'un ne veut pas forcément dire cautionner l'article de ce qu'il va faire. Et ça, ça demande une sacrée maturité. Déjà. Parce que je me souviens d'un cas de quelqu'un du Haut-Rhin qui a demandé à son pasteur de l'accompagner à Zurich chez Dignitas parce qu'il voulait mettre fin à sa vie. Et le pasteur y est allé. Et moi je pense qu'il a, fait son travail de pasteur. Et le pasteur en question n'était pas pour. Par contre, il a dit, le devoir d'accompagnement va au-delà de mes convictions personnelles et pour moi, ça c'est un, c'est-à-dire un vrai pasteur, mais c'est l'éthique pastorale collée à la réalité de terrain, pour moi. Mais je peux entendre d'autres opinions, hein.
Mais essayer de donner le cadre le meilleur possible pour tout ce thème.
Oui.
Où en est-on avec la levée de l'anonymat? C'est une question qui revient assez souvent.
Alors, c'est une question qui est encore en discussion sérieuse en France, mais je pense qu'elle va finir par arriver. Mais les médecins crient quand même au loup en disant, regardez, le nombre de donneurs a déjà diminué, nous avons un déficit de 150 donneurs actuellement, et la réticence la plus importante, c'est si nous devions de par la loi ouvrir l'insémination aux femmes seules et aux couples de femmes, à ce moment-là, c'est sûr que nous n'aurions plus assez de sperme. Parce que ça voudrait dire au moins 200 donneurs supplémentaires. Et si le problème vous intéresse, vous regardez sur le site de l'Agence de la biomédecine, il y a tout un petit cahier publicitaire pour inciter au don de sperme. Et les arguments qui sont donnés sont intéressants, sont bien sûr des arguments complètement laïques, du genre, gêne en couple, je suis une personne assez généreuse, je veux aider à donner la vie, etc. Bon, si on est sur cette lignée de pensée, pourquoi pas?
Un donneur, maintenant, il ne sait pas s'il aura un enfant dans un couple hétérosexuel ou homosexuel. Ça ne pourra peut-être pas lui plaire a priori. À un moment, il a donné tout son sperme en ayant un schéma familial. Et puis maintenant, son sperme peut se retrouver dans des situations un peu alambiquées.
Très bien. Très bonne remarque, monsieur. Très bonne remarque. Parce que ça, c'est pas prévu dans la loi encore. Parce que ça voudrait dire qu'il faut faire remplir une case. J'ai prévu mon sperme pour un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel. Vous vous rendez compte de la difficulté? C'est
un donneur
peut féconder plusieurs femmes.
Oui, mais est-ce qu'on a étudié les noms?
Alors, il y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 10 jours, il y avait un reportage sur un Hollandais qui aurait eu 115 enfants par un don de sperme.
Si un jour, là, j'avais une anonymat,
oui.
Il y avoir vu quelque part que le nombre de femmes inséminées par un même donneur était limité à 10.
En France,
en
oui.
En France, à cause du risque d'inceste.
Et de consanguinité. Oui, tout à fait. Mais nous avons pour l'instant en France une législation qui nous protège. Mais là aussi, il y a une pression sociale fantastique. Et on ne sait pas trop dans quelle direction. Moi, je trouve très intelligent du gouvernement qu'il ait demandé aux familles religieuses de se positionner. Maintenant, qu'est-ce qu'il...
Le téléphone se trouve en bas de maison.
Au cœur.
Mais comment on peut faire face donc à cette... Est-ce qu'il y a une éducation à donner? Mais là, on prend position et c'est pas possible. Parce que là, quand même, les hommes, vous réagissez pas tellement pour l'insémination des femmes seules, des couples de femmes seules, la négation du père.
Ah, mais juste.
Et là, il n'y a pas tellement de réaction de la part des hommes là, qu'on fait disparaître. Alors, je dis pas l'insémination dans un couple hétérosexuel, l'homme qui donne son sperme peut se dire je donne un père. Hein? Mais là, les femmes seules, c'est bien la négation du père. Hein? Et puis alors encore autre chose, on est quand même dans une mode actuelle de bio. Et là, on veut tout du naturel, du bio. Et là-dedans, on est complètement à côté. Hein?
Je suis d'accord.
Voilà. Alors, mais après, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de positif pour influencer d'une autre façon? Redonner la place au père, redire que l'enfant c'est pas un droit.
Alors dire que l'enfant c'est pas un droit, oui, mais dire que les droits de l'enfant doivent être prioritaires par rapport aux droits à l'enfant. Ça c'est déjà quelque chose. Mais vous savez, nous vivons dans une société qui vit beaucoup dans le compassionnel. On ne supporte pas les inégalités, même si elles sont biologiques. Alors on se dit, pourquoi est-ce que ma copine qui vit en relation hétérosexuelle a droit à des enfants, et moi, en situation homosexuelle, je n'y ai pas droit? Ce n'est pas juste. J'ai le même droit que ma copine hétérosexuelle. On en est à ce stade-là, et si vous lisez les journaux féminins, vous avez parfois des confessions de ce genre-là. Hein.
Ça fait pour qui les mœurs aussi. Attendez, dans la liste, Marie-Christine. Après...
Moi, je voudrais quand même m'élever un peu pour préciser qu'on prive les enfants d'un père. Ça ne sera pas vraiment un cas unique. Hein. le nombre de, d'hommes qui fuient quand leur femme est enceinte, le nombre d'enfants qui ne connaîtront donc jamais leur père, et puis tous les scandales qu'il y a avec des gens qui ont soi-disant fait vœu de célibat et qui mettent enceinte des femmes, et qui donc des enfants qui ne connaîtront pas leur père. Alors, monter en épingle le cas des femmes seules
ou
des femmes seules, ça me paraît un peu gros dans la société où nous vivons. Ben, y a quand même, bon, c'est particulièrement net aux États-Unis, mais c'est connu chez nous aussi quand même qu'il y a des tas d'hommes qui n'ont pas, aucune envie d'être père et qui fuient. Enfin bon, et puis d'autre part, moi je pense que pour un enfant, avoir un couple de femmes, effectivement, en face de soi, c'est mieux que d'avoir une femme seule. C'est mieux d'être à deux que d'être seul quand on élève un enfant, même si on est de même sexe. Enfin bon, il y a une aide mutuelle, une possibilité de débat. Oui, donc il faudrait peut-être séparer les deux cas aussi, du couple homo et du couple et de la femme seule.
Il y a peut-être une chose qu'il faut que je vous dise encore, c'est qu'il y a quelques études qui ont été faites qui ont comparé le devenir d'enfant vivant en couple hétérosexuel où les gens sont ensemble hein, sur une période de 15 ans minimum, et d'autres en couple homosexuel, il n'y a pas de différence entre les deux, je veux dire au point de vue éducation, au point de vue affectif, etc. Et il n'y a pas de relation entre le fait que les parents soient homosexuels et que les enfants le deviennent après. Là, c'est à peu près clair maintenant, parce que l'étude porte sur 9 pays différents et ça recoupait plus de 25 000 couples. Donc, bon, c'est du sérieux.
Oui, mais enfin, la pression sociale va dans le sens quand même de l'hédonisme plutôt que mettre l'intérêt de l'enfant au centre du oui. problème. Mettre l'enfant au centre pour prendre des décisions éthiques. Et ça, et quand ce que vous dites, je partage en partie votre avis, mais pas tout à fait, parce que quand on fait partie d'une famille atypique, les enfants sont cruels, on en souffre à l'école.
Oui, ouais.
Et ça n'a pas été fouillé dans le détail. Et je suis sûr qu'un enfant qui vient de ces familles-là, de ces couples-là, il surmonte sans doute, mais on a souffert, c'est certain.
Oui. D'autres questions, Romain ?
Simplement pour aller dans le même sens que Madame Michaud, et, enfin dans le même sens, c'est pas, je ne prends pas parti, mais on entend dire aussi, est-ce que ce n'est pas mieux qu'un enfant soit élevé par un couple homosexuel que par des parents qui se déchirent, se disputent, etc., hétérosexuels, hein? On entend aussi ce type d'argument, donc je ne sais pas, psychologiquement, pour un enfant... Oui, bien sûr, deux femmes peuvent aussi se déchirer et se séparer, ouais, même après un enfant.
Mais ça, c'est un choix truqué. C'est-à-dire que, effectivement, on dit, ben voilà...
Je pose la question.
Oui, non, mais c'est quand même un argument fallacieux, parce qu'on part du principe qu'un homme, une femme, ben, se déchirant, effectivement, c'est pas très bon. Mais enfin, vous savez, deux femmes peuvent se déchirer aussi. Hein.
Oui, non,
J'irai dans ma belle famille, deux personnes, une, donc... la sœur de mon beau-frère, qui était avec une femme, qui s'est séparée, qui est maintenant avec une autre femme. Maintenant, ils vont avoir un enfant avec Phil, etc. Mais ça ne veut pas vous dire non plus qu'il n'y aura pas des séparations, etc. dans ces couples-là. Et pour répondre à madame aussi, il y a aussi un rôle, oui, voilà, qui est devant. Il y a aussi, il me semble, la réalité homme-femme, nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas la même psychologie non plus. La femme est peut-être plus attachée à son enfant et le père est là aussi pour dire on retire un peu cet affectif, etc. et pour le porter vers l'extérieur. Le père aussi a quelque chose à jouer.
Oui, c'est le tiers séparateur.
Ben oui, il est quand même...
Le pédopsychiatre appelle ça le tiers séparateur.
Et moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que la PMA, ben, on va en reparler au niveau de proposition de loi avec les lois de bioéthique.
Oui.
Alors, effectivement, vous n'avez pas, si j'ai bien retenu, il y avait 20, parce qu'on nous fait miroiter que la PMA, c'est la panacée. Mais effectivement, déjà, quand on voit le problème déjà d'inégalité, on va dire, biologique, entre la contribution de la femme dans la PMA quelque contribution de l'homme, c'est pas la même. Parce que quand on voit les sollicitations d'une femme, niveau hormonal, je ne sais pas si un homme le ferait d'ailleurs, parce que hormonal, les effets secondaires, etc., on pourrait peut-être pouvoir aller un peu plus loin là-dessus, mais c'est pas rien. Et en même temps, vous disiez qu'il y avait 20 à 25% de réussite, mais est-ce qu'il faut comprendre ça en une seule fois, ou c'est sur un espace de...
Tentative.
Par tentative, oui, c'était pour savoir si c'était pendant 4-5 ans et après on dit bah non, c'est plus possible.
C'est pas tentative. Et les chiffres ne s'additionnent pas. Hein.
D'accord.
C'est pas la deuxième fois, vous aurez plus de chance la troisième fois. C'est non, chaque fois 20-25% maximum. Donc ça, c'est si vous regardez le verre à moitié plein, mais il faut aussi voir qu'il est aux trois quarts vide tout le temps, hein, c'est-à-dire. Vous avez 75% à chaque fois de risque d'échec. Et ça, les couples ont beaucoup de mal à l'entendre. Parce qu'ils le lisent et ils le réalisent quand il y a eu deux ou trois tentatives qui n'ont pas marché. Mais au début, vous pouvez leur dire, ils disent, mais
non, pas.
Nous, on fera partie des 25%. Pas évident, hein.
Et puis vous me direz si je me trompe, mais à une certaine époque, il y a que quelques années, il fallait, il me semble, 2 ans pour déclarer qu'un couple était infertile. Il me semble que maintenant, c'est toujours la même chose, parce qu'on a dit que c'était beaucoup plus rapide au niveau de...
Alors, on dit 18 mois maintenant.
D'accord, c'est un peu
donc, baissé. Il y a 6 mois qui ont changé, mais vous avez tout à fait raison. On dit maintenant c'est 18 mois.
Et après, une autre chose qui serait intéressante, parce qu'effectivement, alors, j'entends tous les choix sociétaux, il y a aussi, vous avez donné le prix de la GPA, mais il y a le prix de la PMA, parce que le souci, c'est que ce n'est pas gratuit, et effectivement, après, on me dit, mais pourquoi je n'ai pas d'enfant? Effectivement, par nature, il y a une infertilité entre deux personnes de même sexe, mais en même temps, si la personne n'a pas de moyens, même pas de leur faute. Donc à un moment, on peut aussi aller toujours dans le principe de solidarité et ainsi de suite, voir effectivement payer et rembourser par la sécurité sociale les PMA pour tous d'ailleurs, et faire en sorte que, en même temps, je dirais, c'était intéressant de savoir qu'il y a 255 donneurs masculins, mais ça veut dire qu'à un moment, en France, on a encore un don gratuit, donc il n'y a pas la marchandisation du corps. Mais comment qu'on fait finalement? Il y a une liste d'attente ou éventuellement ce qu'on peut prévoir ou éventuellement d'acheter finalement du sperme où il y a des pays où on peut l'acheter aussi, c'est ça aussi.
Alors ça aussi, il y a un sperme qui est très demandé, c'est le sperme danois. Vous savez, ils sont grands, ils sont blancs,
ils sont bien plus.
Non, en France, vous êtes sur liste d'attente. Mais il y a moyen de court-circuiter la liste d'attente. Vous fournissez un donneur, mais vous n'aurez pas le sperme du donneur, mais parce que le donneur donne du sperme, vous avancerez sur la liste. Il faut que le donneur ait subi un examen médical, soit éligible, n'ait pas de maladie sexuellement transmissible, etc. Bon, c'est du sérieux. C'est le même principe quand vous voulez donner un rein, par exemple. Vous êtes sur une liste d'attente. Par contre, si vous avez quelqu'un de votre famille qui vous donne un rein à vous, donc c'est OK. Si pour des questions de compatibilité, ce n'est pas possible, mais que la personne donne un rein, vous avancerez plus rapidement sur la liste d'attente. Ça, c'est quelque chose que l'agence de la biomédecine a trouvé. Et moi, je suis contre. Je trouve que c'est une idée intéressante.
Il y a un intervenant qui nous a posé des questions pour les interventions, pour les débarquettes, les interventions, le niveau de la condition d'éthique,
oui. Alors, oui, c'est le prochain texte qui va sortir dans un mois à peu près. Oui, nous avons travaillé ce problème.
Une question, enfin, pas de vocabulaire, mais plutôt d'abréviation. On entend parler de PMA. Et on entend parler d'AMP, c'est la même chose.
Oui, c'est la même chose. L'une est l'abréviation anglo-saxonne procreation, donc de procréation médicalement assistée, mais En fait, le terme médical en France, c'est assistance médicale à la procréation.
Tous les retours depuis tout l'historique, depuis que quand ça existe, est-ce que vous avez des retours des familles, des enfants, si par exemple comme des familles qui se déchirent entre elles à cause des secrets de famille qui sont tabous avec la loi de confidentialité, moi on m'a souvent dit que la vérité est peut-être plus terrible à entendre, mais le mensonge y tue. Est-ce qu'il vaut mieux, on va dire, aller se faire accompagner pour entendre une vérité, pour se libérer de ce fardeau, que, on va dire, se déchirer entre familles derrière un mensonge? Et ça, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique en demande?
Mais il y a des psychologues et des psychiatres qui travaillent dans les services de PMA et dans les CECOS, donc ce sont les centres de stockage du sperme, qui sont spécialisés dans ce type d'accompagnement, qu'on peut contacter pour être accompagné quand on veut expliquer ça à ses enfants, si on en éprouve le besoin.
Si le bienfait des parents, ça existe toutes sortes de douleurs et d'avancées dans le même sens.
Oui, oui, oui.
Et une fois qu'on a fait comme un peu de deuil, et une fois qu'on a passé ce cas, ça c'est toute une démarche personnelle. Aussi, on tourne la page et après on avance.
Mais c'est, en France, ils ont du mal à faire ça. Ils préfèrent mettre de côté tous ces reflets, toutes ces dérives. Maintenant, vu que tout est argent, alors ils mettent les problèmes, ils gravitent, et pourtant, ils créent le problème, la solution est dedans. Donc, aborder tous ces thèmes en les regardant en face, ça vous permettrait aussi d'avoir du potentiel pour résoudre des situations et d'éviter des drames. Voilà. C'est un avis. Hein. Après, voilà.
Monsieur, vous pouvez intervenir.
Oui. Bah, disons que le problème de la PMA avec donneur externe pose déjà un problème, effectivement, où il faut faire intervenir les psychologues, etc., pour accompagner. Donc on fabrique des situations de toutes pièces. Quelqu'un qui a des... où il y a des problèmes, on peut avoir des gens, des personnes qui sont adaptées. Donc on donne un enfant, enfin on donne... C'est ça que je veux dire. On va dire à un enfant, on donne des parents parce qu'il y a eu une rupture accidentelle de la vie. Et donc cet enfant qui devient seul se retrouve avec des parents parce qu'il est adopté. La PMA, c'est complètement différent. C'est qu'on fabrique finalement une situation où la personne a perdu ses origines parce que là, c'est volontaire cette fois-ci. Moi, j'ai eu mon père qui était mon papa, qui était, je dirais, si vous voulez, ma grand-mère, était fille-mère. Bon, la recherche des origines... Eh ben oui, elle se fait aussi, hein. Mais c'est pas tout simple non plus. Hein. Il y a tout un cheminement à faire. Hein. C'est quand même pas la même chose que quand les deux parents sont les deux parents biologiques.
Hein. Oui, bien sûr. D'autres questions ou d'autres remarques?
C'était juste pour le coup de la PMA qu'il y avait...
Oui, c'est bien que vous posiez cette question. Alors nous vivons dans un pays où bon, je trouve que nous avons toujours encore le meilleur système de santé au monde parce qu'il y a 3 essais de PMA qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Et à partir du 4e, c'est aux frais de, disons, du couple. Mais avec 3 essais de PMA, vous avez 3 fois 20 à 25% de chances que ça marche. Et alors, si on veut savoir ce que ça coûte, par essai, il y en a quand même pour entre 1500 et 2000 euros. Mais ça, la solidarité nationale paye pour tous les couples en difficulté 3 essais. Pour l'instant.
Le problème, c'est les coûts sociétaux, sur lesquels la PMA a toutes les variations sociétales. Et bien, comme le budget de la sécurité sociale est limité, c'est d'autres maladies qui seront plus soignées, plus remboursées, ou mal soignées, ou d'autres vrais malades qui seront plus soignés.
Mais je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a une notion qu'en tant que Français, nous avons beaucoup de mal à admettre, pourtant, elle est assez simple à comprendre. L'argent que nous avons à disposition pour notre santé n'est pas infini, c'est un grand pot. Et donc, si nous faisons du choix, comme par exemple de rembourser la PMA pour tous et pour toutes, nous sommes obligés de retirer l'argent ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous ferons moins bien? Est-ce que nous rembourserons moins les médicaments anticancéreux? Est-ce que nous rembourserons moins les médicaments dits de confort? Qu'est-ce que nous ferons moins? Parce que nous avons un pot commun qui n'est pas extensible. Donc il nous faut faire des choix, et ça doit être des choix sociétaux. Mais nous avons beaucoup de mal en France à avoir une discussion sociétale calme en disant, voilà, nous avons ce problème-là. Et je vais vous donner un autre exemple, parce que c'est un exemple qui frappe en général les gens. J'ai travaillé pendant les 10 dernières années de ma vie dans un service de chirurgie thoracique où on faisait des transplantations pulmonaires pour des malades mucoviscidotiques. C'est en général des jeunes adolescents qui avaient entre 15 et 25 ans. La transplantation pulmonaire avec deux poumons, avec les 15 jours de réanimation, avec la rémunération des médecins qui sont obligés de venir la nuit en plus de leur service, etc. Bref, le forfait, il fait 60 000 euros. Bon. 60 000 euros, alors au début, on vous a dit, à Strasbourg, vous avez le droit d'en faire 5 par an. Alors après, quand on en a fait 5 par an, que les résultats étaient bons, bon, c'est 4 sur les 5 qui survivent à 3 ans. On nous a dit, bon, vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 15, vous pouvez en faire 20. Et puis, un jour, on nous a dit, ben maintenant, c'est terminé. Vous ne pouvez pas en faire plus parce que vous explosez le budget de la SEXO, ou alors vous nous dites à quoi vous êtes prêt à renoncer. Alors, les médecins cancérologues nous ont dit, ah ben nous, on ne va pas renoncer à nos nouveaux médicaments anticancéreux. Ils représentent 80% du budget de l'hôpital. C'est pas au nom des transplantations qu'on va, renoncer à donner le meilleur à nos patients. Mais inversement, on peut voir le problème de notre côté. Avec 60 000 euros, vous pourriez éradiquer le paludisme dans un petit pays comme le Togo. Alors, quand vous entendez un truc de genre là, alors c'est facile de dire, oui, mais on n'est pas au Togo. Mais moi, je trouve que cet exemple, il est quand même pas si mal que ça, parce que ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec une somme d'argent. Et ça aide à comprendre pourquoi on ne peut pas dire tout le temps, parce que ça, en France, je veux dire, nous n'avons pas du tout l'habitude de dire, il faut que nous prenions une partie à notre charge. Alors, excusez-moi, je vais encore vous donner un exemple trivial, j'espère ne pas faire fasciner tout de suite, mais je veux dire, actuellement encore, quand je fais encore parfois une demi-journée de consultation à l'hôpital, j'entends tout le temps des gens qui m'ont signé un bon transport. Bon, le bon transport, aucun problème, quand la personne arrive en fauteuil roulant, en chaise roulante, il n'y a pas de problème. Et quand la personne se déplace sans problème, elle dit, vous me payez, vous me donnez un bon transport, la caisse maintenant nous dit, vous dit non. Mais vous pouvez vous imaginer qu'on entend combien on se fait insulter avec des arguments du genre, j'ai payé, on est en Alsace, hein, j'ai payé dans la caisse pendant tant et tant d'années. Hein? Donc j'ai 3 mois aussi maintenant. Et vous entendez ça en permanence, mais ça, nous sommes un peuple d'assistés. Et nous ne nous rendons pas compte qu'il faut que nous nous prenions en charge aussi. Et ça commence par des petits trucs du genre. Réservons les bons transports aux gens qui en ont vraiment besoin. Et apprenons à être des adultes responsables. Je suis désolé de dire, nous sommes presque tous de la même génération, mais c'est un langage qu'il faut tenir aux Français.
Merci.
avancé là-dessus, parce qu'elle était assez indépendante. Mais elle est beaucoup plus participative en expérience que la France. Nous, côté laïque, on peut le voir, on ronchonne, on se plaint toujours, mais on a très peu d'expérience pour essayer d'avancer malgré les contradictions. On le voit dans les manifestations qui peuvent se passer ici et là. Quand il y a eu le grand débat, par exemple, sur énormément de sujets, moi j'ai eu l'occasion, on va dire, de monter en groupe de travail, malgré ma jeune expérience, pour essayer de faire quelque chose. On est monté au palais de Vienne. On en est sorti pour la pauvreté, pour donner un avis spontané. Bon, moi, on y est allé, on a apporté quelque chose. Si on ne s'immerge pas dans le problème, on ne peut pas savoir comment on le vit. Quand on aperçoit tous les reflets en bas société des cris d'alerte jusqu'au dispositif d'urgence, c'est inimaginable. Tous ces problèmes-là, on va dire, de PMA, le cadre, vous le dessinez, ça permet de mettre des limites, mais ensuite, tout ce qui est dérive, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de faire mettre des barrières pour pas que ça engendre du marché noir, des choses comme ça, parce qu'il faut s'y attendre. C'est des gros problèmes envisageables.
C'est à la société que nous sommes, donc à nous tous, de savoir ce que nous voulons. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons comme médecine? Qu'est-ce que nous voulons rembourser? Quelle importance est-ce que l'AMP a pour nous? Je veux dire, on peut être d'opinions différentes. Et je veux dire, les lobbies gays et les lobbies de lesbiennes, on le vend actuellement. Hein. C'est-à-dire, il faut faire très attention à ce que vous dites en France et à qui vous dites actuellement. Moi, j'ai essayé ce soir d'être aussi objectif que possible. Hein. Je vous ai dit, il y a même au sein des églises, en tout cas, au sein du protestantisme, il y a différentes façons de voir les choses. Hein. Mais je vous dirais, on a 500 ans d'expérience de vivre les uns avec les autres tout en n'étant pas d'accord. Donc, hein.
D'autres questions? Mais c'est par rapport aux justement dépenses de santé, enfin, je vais dire de santé, je truque ma question quelque part, mais la sécurité sociale, c'est effectivement pour des dépenses de santé et qui ferait en sorte pour des couples qui ne sont pas infertiles, parce qu'actuellement, jusqu'à maintenant, c'est pour des couples qui sont infertiles, et si la loi s'élargit à des femmes seules et ou à des couples de femmes, de couples de femmes, on est devant des plus, la sécurité sociale contribuera finalement plus à des problèmes de santé, mais des problèmes sociétaux, quoi.
Exactement.
Et qui n'est pas sa destination,
exactement.
C'est plus du tout la même chose.
Exactement. Le voulons-nous, et pouvons-nous nous le payer?
Voilà, c'est ça. Voilà. Et en même temps, sur le même principe d'égalité, la GPA est là, pourquoi un couple de femmes pourrait avoir accès à avoir des enfants, quelque part, et pourquoi un couple d'hommes, finalement, ne pourrait pas l'avoir? Et la GPA, elle n'est pas bien loin, après, derrière, hein, dans les marches d'escalier. Hein.
Oui.
Soit l'homosexualité est considérée comme une maladie, elle pourrait être prise en charge, mais alors là, c'est pas dans l'air du temps.
Oui. Non, mais c'est passionnant. Je crois que vous avez bien saisi toute la complexité du problème.
Vous pouvez répéter parce qu'on n'a pas trop.
Oui.
Soit l'homosexualité est considérée comme une maladie, mais ce n'est pas dans l'air du temps, cette conception-là. Dans ce cas-là, si c'est une maladie, elle a droit à être prise en charge par la sécurité sociale. Comme ce n'est pas considéré comme une maladie, enfin, en tout cas par les homosexuels, elle ne peut pas être prise par la sécurité sociale.
Mais disons que ce n'est pas forcément une maladie. Enfin, on pourrait être éventuellement, enfin, dire que c'est une maladie, mais après le contre-coup d'avoir des enfants, je ne pense pas qu'on pourrait tomber dans le cadre d'avoir encore autre chose.